Vous êtes sur RTL.
18h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les sirènes de Venise.
Quatre notes crescendo, alerte de niveau 4. Quand la sirène aiguë retentit, ça veut dire que l'eau a dépassé 1,40 m. On était à près de 2 mètres hier soir, du jamais vu depuis plus de 50 ans. 82% de la ville s'est retrouvée sous l'eau. Nous appellerons Anne Lenir dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la grille du ministère de l'Enseignement supérieur arrachée à Paris par des étudiants en colère. Un jeune homme jugé à Besançon pour avoir piraté et diffusé des milliers de séries. Mais il y en a beaucoup d'autres dans la nature. Alors que fait la police? Ce sera la question du 8h. Et puis on dit bien les animaux. C'est le nom du tout dernier titre de Renaud. Le chanteur se confie en exclusivité sur RTL.
La météo, Marina Giraudot.
Un ciel nuageux avec des averses, mais beaucoup moins nombreuses qu'hier. Des averses essentiellement au nord de la Loire, jusqu'au Grand Est et à la Bourgogne, vers les Pyrénées. Un coin de ciel bleu quand même, l'extrême sud-est, de la Corse à la Provence-Alpes, Côte d'Azur et aux Alpes. Et puis, nouvelle perturbation va arriver en deuxième partie de journée. Ça arrivera par la Bretagne. Côté température, fraîcheur matin comme après-midi. Cet après-midi, entre 4 et 13 degrés en général, 16 à 17 sur le sud-est.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
À Venise, la marée s'est retirée tard hier soir, mais une nouvelle montée des eaux est attendue dans moins de 2 heures. Près de 2 mètres ont recouvert mardi en fin de journée la ville du Grand Canal et de la place Saint-Marc. Bonjour Anne Lenir.
Bonjour.
On peut parler de joyaux en danger?
Oui, vous savez, alors déjà, il faut rappeler que ce matin, il est absolument impossible de traverser la place Saint-Marc, même avec des bottes de pluie. La célèbre basilique que l'on voit en partie immergée dans l'eau, ce qui est très impressionnant, aurait subi de graves dommages, notamment au niveau de la crypte. Mais c'est toute la cité des Doges et ses monuments historiques, remontant au XIIe siècle, qui sont en danger. Malheureusement, le fameux projet Moïse, lancé en 2003, un gigantesque système de digues flottantes visant à protéger Venise et qui devait entrer en fonction en 2016, n'est toujours pas achevé. Le chantier, entaché d'affaires de corruption, a été interrompu à plusieurs reprises et rien ne dit que le nouveau délai fixé au printemps 2020 sera respecté. Alors, en attendant, les Vénitiens se préparent à une nouvelle montée des eaux prévue vers 10h30 ce matin.
Anne Lenir, notre correspondante en Italie, merci Anne. Et le maire de Venise a directement accusé, il a mis en cause le réchauffement climatique qui serait, selon lui, responsable de cette brutale montée des eaux.
RTL Matin, 8h03.
Aux États-Unis, ce n'est pas la montée des eaux qui menace Donald Trump, mais une procédure de destitution qui se joue à partir d'aujourd'hui et en direct.
En direct, à la télévision, près d'un demi-siècle après l'affaire du Watergate qui avait fait chuter Nixon, les Américains vont voir défiler les témoins de cette obscure affaire ukrainienne où le président américain aurait joué les maîtres chanteurs. Jusqu'à présent, le linge sale s'était lavé à huis clos. Tout sera désormais public, Philippe Corbet.
Oui, les enquêteurs de la Chambre ont déjà recueilli à huis clos des témoignages de diplomates, militaires, fonctionnaires, parfois soutiens de Trump, qui confirment que le président a bien tenté d'extorquer à son homologue ukrainien l'ouverture d'une enquête sur le fils Biden, son possible rival à la présidentielle. Mais la destitution, c'est un processus politique, pas judiciaire. C'est pour ça qu'on entre aujourd'hui dans le vif du sujet, avec ses premières auditions publiques qui vont s'étaler pendant plusieurs semaines. Toutes les grandes chaînes en édition spéciale, pendant des heures, les témoins interrogés par des parlementaires opposants ou partisans du président. Est-ce que l'Amérique va accrocher au feuilleton ou s'en lasser? C'est ça la clé. C'est ça qui avait fait basculer l'opinion sur le Watergate il y a 45 ans et pousser Nixon à démissionner. On n'en est pas là du tout pour Trump, qui va tenter, comme il sait le faire, de détourner l'attention.
Philippe Corbet, les États-Unis qui demandent à leurs ressortissants de ne plus se rendre en Bolivie. Les pros et les anti-Evo Morales s'affrontent toujours à la passe. Notamment, le président démissionnaire s'y réfugie au Mexique. Il dénonce un coup d'État depuis que la deuxième vice-présidente du Sénat a pris les rênes par intérim.
RTL Matin, 8h04.
Au gouvernement, on condamne les violences en marge des manifestations étudiantes.
Plusieurs rassemblements organisés en France pour dénoncer la précarité après la tentative de suicide d'un jeune à Lyon. À la fac de droit de Lille, une conférence de François Hollande a dû être annulée. On a entendu crier le slogan « Hollande assassin ». Et à Paris, une poignée de manifestants a arraché la grille du ministère de l'Enseignement supérieur. Elle est toujours à terre ce matin. Émilie Beaujard, bonjour, vous êtes sur place.
Eh bien non, elle a été retirée et remplacée par une palissade en tôle qui bloque pour l'instant l'entrée du ministère et pour éviter toute nouvelle intrusion, comme hier soir, quand une centaine d'étudiants se sont introduits quelques minutes dans l'enceinte du ministère. Mais il n'y a pas d'autres mesures de sécurité. Ce matin, sur le mur d'enceinte, deux tags faits par des manifestants ont été recouverts par de la peinture noire. Sur l'un d'eux, on peut encore deviner ce qu'il y avait écrit. La précarité tue. Ce message, c'est celui qui était porté hier soir par les centaines d'étudiants qui ont manifesté dans les rues de Paris. Il dénonce les conditions de vie des étudiants précaires et demande la démission de la ministre de l'Enseignement supérieur. Ce matin, les étudiants ont aussi appelé au blocage de l'université de Lyon 2. Une partie du campus est d'ailleurs déjà fermée. C'est à Lyon qu'un jeune homme a tenté de se suicider la semaine dernière à cause de ses difficultés financières. Il est toujours aujourd'hui entre la vie et la mort.
Merci Émilie Beaujard en direct du ministère de l'Enseignement supérieur.
C'était il y a 4 ans. 9 terroristes ouvraient le feu à Saint-Denis et à Paris, faisant 130 morts et plus de 350 blessés.
13 novembre 2015, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner se recueillera tout à l'heure devant les plaques commémoratives disposées sur le parcours de la mortelle équipée. Il y a un nom et un visage à tout jamais associé à cette tragédie. Ce sont ceux de François Molins. À l'époque, il était procureur de la République de Paris. Il apparaissait régulièrement sur les écrans, à la radio, pour faire le point sur les enquêtes. Il est aujourd'hui procureur général près de la Cour de cassation. François Molins ne pourra jamais oublier cette date.
Je me souviendrai toujours d'un détail qui m'avait beaucoup frappé. C'était le corps d'une dame avec les cheveux un peu coupés au carré, cendrée, qui reposait sur son sac à main, dans lequel se trouvait un téléphone portable qui n'arrêtait pas de sonner. Tout ça dans le silence. C'est quelque chose, je pense, que je n'oublierai jamais.
Comment vous faites pour dompter vos émotions dans des moments pareils, François Molins ?
Je pense qu'on a le droit d'en avoir. On serait même à la limite inquiétant et dangereux si on n'en avait pas. Simplement, le challenge, le défi qu'on a, c'est effectivement d'arriver à les maîtriser, à les garder pour soi. Moi, dans des circonstances comme ça, je m'autorise toujours quelques minutes de recueillement. Et puis après, je reviens à...
Vous redonnez le professionnel.
Voilà.
François Molins sur RTL avec Thomas Soto. Il évoquait ses souvenirs du 13 novembre 2015. À l'époque, il était procureur de Paris, procureur de la République de Paris.
Dans un instant, une intervention chirurgicale inouïe, celle qui a permis de séparer deux petites sœurs siamoises. Ça se passe à Lyon. À tout de suite.
RTL Matin, 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi.
L'opération doit durer entre 4 et 8 heures.
À Lyon, deux petites sœurs siamoises qui viennent de fêter leur premier anniversaire doivent être séparées. Tout à l'heure, elles sont reliées par l'abdomen. C'est une intervention chirurgicale délicate. Bissi et Eyenga sont nées au Cameroun. Elles ont été rejetées par leur père et une partie de leur famille. C'est l'association La Chaîne de l'Espoir qui les a fait venir en France avec leur mère. Le professeur Pierre-Yves Mur est le coordinateur de l'opération.
C'est une opération très exceptionnelle, de très haute technicité médicale. Sur Lyon, on n'avait jamais eu l'occasion de le faire, mais on est un des plus gros hôpitaux français, donc j'ai aucune inquiétude sur les capacités à notre équipe de réaliser cette chirurgie. Et j'avoue que je vois vraiment le résultat, et deux petites filles qui rentreraient chez elles séparées. Ce qui est intéressant dans la situation de ces deux petites filles, c'est qu'une fois séparées, elles seront comme deux petites filles normales, et ça je crois que c'est un point important. Des enfants handicapés, malheureusement, il y en a beaucoup en Afrique, et jusqu'à maintenant, on ne cherche pas particulièrement à les faire venir en Europe, parce qu'on sait que si on les opère chez nous, probablement ils ne pourront pas rentrer chez eux. Nous, médecins, nous ne sommes pas là pour faire des chirurgies d'exception et après garder les enfants chez nous en Europe. Je crois que ce sont deux petits-enfants africaines et il faut absolument tout faire pour qu'elles puissent rentrer en Afrique et auprès de leur famille.
Le professeur Pierre-Yves Mur au micro RTL de Nerissa Emani. Un homme soupçonné d'avoir poignardé sa femme à Oberhofen-sur-Moder dans le Bas-Rhin a été mis en examen et écroué. La victime est décédée dans les bras de sa fille. Cette dernière accuse les gendarmes d'être intervenus trop tard. La gendarmerie s'en défend. Une enquête interne est ouverte.
RTL Matin, 8h10.
Un petit génie de l'informatique risque gros.
Un génie, mais surtout un pirate. Aux yeux de la justice, le jeune homme de 22 ans comparé à Besançon ce matin pour avoir mis en ligne 2 millions de séries américaines et françaises. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 600 000 euros d'amende. Sa plateforme de streaming a fonctionné pendant 3 ans.
Alors, peut-on télécharger et diffuser des films, des séries, de la musique en toute impunité ? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Jean-Alphonse Richard, bonjour.
Bonjour.
Les pirates du net prolifèrent. Est-il si difficile de les rattraper et de les poursuivre ?
Alors, de les rattraper, oui, parce que les plateformes sont souvent installées à l'étranger, hors d'atteinte, techniquement difficile à démanteler. De les poursuivre, clairement non. Dès qu'apparaît une activité de streaming illégale, des plaintes sont tout de suite déposées. Les producteurs font eux-mêmes le ménage sans s'appuyer sur le gendarme officiel Adopi, qui, à leurs yeux, manque des efficacité. Pour Besançon, par exemple, c'est l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA, qui a porté plainte. L'enquête a ensuite été menée par la cellule Lyon, une équipe spécialisée de la police judiciaire. Des pirates qui risquent, vous l'avez dit, jusqu'à 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende au pénal. Les procès pénal, civil, en fait, se succèdent. Récemment, celui d'un étudiant politiquement opposé au droit d'auteur qui dévoilait en ligne des romans entiers, 350 livres au total. Il a été condamné à rembourser le prix des ouvrages, plus des dommages et intérêts.
Et malgré ce risque judiciaire que vous venez de rappeler, ce genre de piratage prospère.
Oui, la France compte en 2019 13,7 millions de pirates, auteurs et consommateurs confondus. C'est moins qu'en 2018, mais l'activité illégale ne faiblit pas. Exemple, les séries que doit lancer la plateforme Disney Plus le 30 mars sont déjà proposées sur des sites interdits.
La question du 8h avec Jean-Alphonse Richard.
L'économie en bref, le français Saint-Gobain s'offre l'américain Continental Building qui produit notamment des panneaux de placoplâtre, coût de l'acquisition près d'1,5 milliard de dollars. Le géant de la voiture électrique Tesla s'implante en Europe et c'est Berlin qui a été choisi. L'usine construira surtout des batteries. Ce sera le quatrième site du groupe d'Elon Musk après ceux du Nevada, de New York et de Shanghai.
Rien à voir avec l'automobile, hein, mais Renault est de retour.
3 ans et demi après son album Phoenix, celui de la résurrection, tant le chanteur était mal en point, l'auteur de Mistral gagnant décline son amour pour les enfants. Les mômes et les enfants d'abord, c'est le nom de ce nouvel album qui sort le 29 novembre. Et RTL est très fier ce matin de vous offrir un premier aperçu avec ce titre, Les Animales. Renault s'est confié en exclusivité à Steven Bellery.
Une chanson sur l'amour d'un enfant pour les animaux, les animaux comme ils disent parfois. Voilà, c'est un petit tour d'horizon des différents animaux que les enfants aiment et que j'aime.
Quand on vous entend dans la chanson dire à un moment « J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix ». Clin d'œil à votre précédent disque.
Clin d'œil à mon précédent disque, à mon dernier surnom, Renaud le Phénix, petite pirouette.
Vous aimez ce nouveau surnom du phénix?
Pas plus que les autres. Renaud le renard, Renaud le grincheux. C'est vrai, je suis un peu grincheux dans la vie.
Ça fait du bien de râler parfois?
Ouais, ça défoule un peu.
Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes.
Avec ce titre, maintenant vos enfants auront le droit de dire les animaux.
Hein,
c'est autorisé. Renault et les animaux, on les retrouve en longueur tout à l'heure dans Laissez-vous tenter. Ce sera avec Steven Bellery. C'était le journal de Jérôme Florin.